Épisode 15, Productivité 101 avec Dave Ruel. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Chaque semaine, un nouvel épisode sortira le jeudi pour te donner de nouvelles idées pour faire en sorte que tu te sentes bien au quotidien. Nous alternerons en des épisodes où je discuterai en solo avec toi et d'autres où je parlerai avec des femmes inspirantes qui te donneront à leur tour leurs astuces à mettre en pratique pour que tu prennes du temps pour toi et que tu améliores ton bien-être même si tu es une femme occupée. Parce qu'avoir une pratique de self-care adaptée à tes besoins, c'est ta job. Personne ne le fera pour toi. C'est pourquoi ce podcast vise à t'inspirer à faire de ton me-time une pause amusante, ressourçante, plaisante. Bref, je veux t'amener à avoir hâte à ton petit moment feel good pour que tu continues à chaque jour pour toujours. J'espère que tu es déjà ou que tu deviendras aussi passionné que moi par tout ce qui concerne le bien-être. Et aussi que tu développeras ta propre routine Feel Good. Bienvenue à cet épisode.
Le podcast Feel Good est présenté par le planificateur EFIC, l'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. OK. Alors, bienvenue au podcast cette semaine. Je reçois le premier homme, jusqu'à présent, qui est le mari de Karine Ruel qu'on a eu plus tôt dans la saison, Dave Ruel, aujourd'hui qui est avec nous. Donc, Dave, il y a beaucoup de chapeaux, mais c'est, entre autres, derrière lui, vous voyez, le livre Done by Noon, il a écrit ce livre. Et il a aussi fait les planeurs Eric, que j'utilise, qui sont vraiment bien faits. Donc, vous vous doutez que son domaine d'expertise, c'est l'organisation. Est-ce que tu aurais plus de précision à nous donner sur ce que tu fais?
Bien, comme tu as dit, ma job principale, c'est d'être le mari de Karine Ruel. c'est drôle. On niaise à ça parce qu'il bon, y a beaucoup de monde, puis surtout comme probablement de ton univers qui sont familiers avec Karine, avec son podcast Altitude, puis avec ce qu'elle fait. Puis peut-être moins avec moi parce que moi, je travaille majoritairement sur le marché anglophone. J'ai quand même, je fais un petit peu d'affaires sur le côté franco avec, par exemple, avec Mathieu Dumont, dans le podcast Les Instigateurs, qui est assez populaire au niveau de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, beaucoup de monde sont familiers avec Karine. Il y a toujours des jokes avec Karine. Un commentaire qu'on trouvait très drôle la dernière fois sur Facebook, c'est comme, des fois, je suis sûr,
sur son podcast,
peu importe, puis des commentaires, c'est comme, oh, je vous aime beaucoup tous les deux, surtout Karine.
Oui, mais s'ils sont sur le podcast à Karine, ils sont un peu vendus forcément.
Mais c'est ça, c'est comme Dave, c'est bien, mais Karine, c'est mieux. C'est trop. Bon, en tout cas, non, mais c'est ça, je suis beaucoup sur le marché anglophone, donc j'ai une compagnie qui s'appelle EFIC. Qui est une compagnie de développement du leadership où on aide vraiment les entrepreneurs à devenir plus productifs et plus performants de façon durable. Donc, on a différents outils, on a différents trainings, on a même une certification sur la méthodologie que tu es en train de suivre en ce moment. Puis, on est pas mal content que tu sois avec nous. Parce qu'au niveau francophone, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde certifié sur la méthodologie. Donc, tu seras une des rares personnes certifiées. Mais c'est ça. À part ça, je suis un entrepreneur depuis en ligne depuis 14 ans, 12 ans full-time. J'ai développé plusieurs compagnies sur le web, 100%, toujours remote aussi. Donc, dans le fond, j'ai toujours travaillé de façon globale avec une équipe en télétravail. Tu sais, on parlait un petit peu tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais le télétravail, mais Moi, le télétravail, c'est toute ma réalité, je te dirais, depuis 12 ans. Mon équipe est un petit peu partout. Je suis vraiment content maintenant que le monde du travail, justement, s'ouvre à la beauté du télétravail. Il y a d'autres façons aussi de travailler. T'sais. Ça fait que ça devient intéressant aussi pour nous à EFIC, parce que maintenant, je parle beaucoup, on a parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat, mais le fait de donner plus de pouvoir ou plus de flexibilité à ses employés pour justement qu'ils développent un petit peu leur côté entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise, d'une structure. Moi, je trouve ça fascinant. Puis c'est un mouvement que tu vois de plus en plus, bien entendu. Donc, tu sais, il y a plusieurs compagnies maintenant qui ont emboîté le pas, qui utilisent nos planificateurs et nos systèmes, etc. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis, ben, au niveau franco, maintenant, ben, avec Karine, ben, le planificateur, qu'on voit celui que tu as montré, le blanc, c'est une collaboration justement entre EFIC et Altitude, donc la marque de Karine. Et puis, on est en train de travailler à justement amener EFIC sur le marché francophone au grand complet. Donc, tous nos produits d'éducation, nos trainings, nos outils seront en anglais, je te dirais. On essaye pour l'automne de faire un lancement francophone sur l'automne, qui est le fun parce qu'on a quand même une belle demande. Donc,
effectivement.
On est pas mal excités par rapport à ça.
Oui. Puis toute ton expertise, en fait, vient de toutes tes années où tu as été à ton compte, puis que tu as fait des essais-erreurs, puis que tu as dû apprendre à t'organiser. Comment t'es arrivé à ce concept?
La façon dont j'ai commencé en ligne, c'est juste pour conter la petite histoire de comment j'ai ma première compagnie. Moi, j'étais culturiste amateur dans le début des années 2000, et puis j'étais un athlète pendant plusieurs années, et j'ai toujours eu ce côté entrepreneur-là, mais surtout le côté de vouloir la liberté, dans le fond, d'avoir la liberté de temps, d'avoir la liberté de création, d'avoir aussi la liberté financière. Et j'étais toujours attiré par le côté web, le côté ce que ça pouvait amener. En 2007, j'ai découvert un homme qui s'appelle Lee Hayward. Donc, on se connaissait déjà. Je ne pense pas que je t'ai raconté l'histoire de Lee Hayward. Je le raconte au début du livre « Done by Noon ». Comment est-ce que ça arrivait? Mais je compétitionnais à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, en bodybuilding. Il y avait un message board, un forum sur lequel on était tous. Il y avait beaucoup de bodybuilders canadiens puis de la place de la région qui participaient. Puis, y a-tu quelqu'un? Mais moi, dans ce temps-là, je n'avais pas nécessairement beaucoup d'argent. Puis, je devais voyager là. Y a-tu quelqu'un qui voudrait partager une chambre d'hôtel ou peu importe? Puis Lee Hayward m'a répondu, il dit non, écoute, moi je compétitionne aussi. Puis si tu veux prendre le sofa dans la cave, il n'y a pas de problème. Tu peux venir rester chez nous pour la fin de semaine. On s'aidera puis on hang out. Mais moi je ne le connaissais pas plus que ça. Lee, on se connaissait juste du message board. Puis on savait qu'est-ce qu'on était du circuit régional, mais on ne se connaissait pas à part de ça.
Okay.
Puis c'est ça, j'ai découvert que Lee Hayward vivait de son blog, de son site web de bodybuilding. Il faisait ça depuis plus de 10 ans, puis il faisait dans les chiffres avec son site web. J'étais comme, mais comment, tu sais? Donc, j'ai commencé à vraiment à savoir. Lee m'a mentoré dans le processus et je te dirais que ça a été le début où mon obsession pour le fitness est devenue une obsession pour le business. Et puis, j'ai monté ma première compagnie en ligne qui a commencé, si tu veux, un peu plus, je te dirais, à temps partiel. Et ensuite, 2009, j'ai été full-time. Donc, ça fait déjà 12 ans full-time. À partir de là, j'ai développé différentes compagnies comme Balboa Media, qui est une compagnie de marketing publishing. Donc, qui faisait la même chose que je faisais pour moi, mais pour d'autres coach fitness ou d'autres personnalités fitness. C'était à l'époque où YouTube commençait à être vraiment très, très plus populaire. Donc, il y avait des personnes qui avaient des audiences, des auditoires, mais pas nécessairement de monétisation de ce qu'ils faisaient. Donc, nous, on montait l'infrastructure technologique, les programmes, les produits digitaux, etc. Et donc, on monétisait ça. Et puis, à partir de là, moi, en 2014, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une compagnie de suppléments alimentaires qui s'appelle Bioptimizers. Donc, c'est une compagnie plus, je dirais, basée sur, qui est aux États-Unis, qui est spécialisée au niveau de la digestion beaucoup. Donc, il y avait des enzymes, des probiotiques, des choses comme ça, de la protéine, de chanvre, en tout cas, différents produits. Et j'ai revendu cette compagnie-là en 2016. Mais oui, donc pour en revenir à ta question par rapport à comment est-ce que j'en étais là, tu sais, j'ai pas décidé d'être entrepreneur d'une certaine façon. J'ai vu ce que Lee Hayward faisait, j'étais comme, j'ai une passion, j'ai une méthode aussi, parce que moi, je coachais aussi d'autres athlètes, si tu veux, pour les préparations physiques. Donc, j'avais comme ma méthode à moi qui était différente de ce que d'autres coachs faisaient, puis j'avais des bons résultats avec, puis c'était beaucoup de basé d'inclure des recettes spécifiques dans mes diètes. Donc, ce n'était pas nécessairement des poitrines de poulet avec du brocoli puis du riz 7 fois par jour. Là. C'est, il y avait une belle variété, puis j'avais mon propre système. Donc, j'ai lancé, en fait, un livre de recettes pour Bodybuilder, qui était mon premier produit. Et puis ça, après, on a développé le restant des entreprises, comme je t'ai dit. Mais comment je faisais ça? Je n'ai pas décidé, c'est de devenir un entrepreneur. On dirait que maintenant, tout le monde est entrepreneur avant, en fait, de faire quelque chose. Pour moi, j'ai lancé mes affaires, puis ensuite, je me suis rendu compte que, OK, il y a une façon d'opérer en tant qu'entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneurship, c'est comme un sport qu'il faut apprendre. Puis, j'ai vu beaucoup de parallèles avec le milieu de la performance sportive, de la façon dont un entrepreneur doit agir, si tu veux, pour évoluer, puis pour gérer tout ce qu'il y a à faire. Tu sais. C'est comme quand tu vas au gym, puis tu t'arrives pour la première fois, puis tu fais un petit peu n'importe quoi, puis tu n'as pas de structure, ben, tu n'auras pas de résultat, puis probablement que tu ne t'offres pas parce que, justement, tu n'as pas cette structure-là que ça te prend opérationnel, ou tu as besoin d'un plan nutritionnel, tu as besoin d'un plan d'exercice. Puis ensuite, quand les choses vont bien, là, tu peux aller dans un plan d'optimisation avec de la supplémentation, des choses comme ça. Mais c'est un petit peu la même chose. Donc, j'ai adapté différentes techniques que j'avais apprises dans le milieu de la performance sportive à l'entrepreneuriat, dans la façon de gérer ma charge de travail, gérer mon temps, gérer mes priorités, des choses comme ça. Et donc, finalement, j'ai créé mon propre petit système à moi et puis pour mes entreprises que j'ai cédé. Et quand j'ai vendu mes parts de Bioptimizers en 2016, j'ai eu l'opportunité de commencer à coacher des entrepreneurs qui voulaient un petit peu faire la même chose que moi. Donc, dans le fond, aller en ligne et puis monter leur online business. Puis, c'est là que j'ai réalisé que tous les entrepreneurs ont le même problème que moi j'ai eu. Okay? Je dis comme, pour moi, j'ai comme, OK, ben j'ai ce problème-là, je vais fixer ce problème-là pour moi, mais je n'avais pas caché que c'était un problème récurrent dans le milieu de l'entrepreneuriat, que tous les entrepreneurs font face aux mêmes défis. Et donc, à partir du moment-là, j'ai commencé à partager mes systèmes avec les entrepreneurs. Puis ces entrepreneurs, puis j'ai vu les résultats qu'ils avaient avec ce système-là. Donc, le coaching, dans le fond, m'a permis de développer ou de standardiser ces outils-là. Ces outils-là sont regroupés sous la bannière EFIC. C'est comme ça que maintenant, et puis que le planificateur EFIC est né, que le livre Done by Noon a été écrit et que la méthode s'est popularisée aussi et que maintenant, on a lancé l'année dernière la première ronde de certification. Donc, on est pas mal. C'est un petit peu, je te dirais, comme ça que la méthodologie est née. Je sais que ça fait 20 minutes que je parle de commencer. Mais tu sais, c'est important d'avoir le contexte.
Non, mais je trouve ça tellement fun parce que, justement, tu t'es inspiré de ton entraînement pour créer une méthode qui s'applique à d'autres choses. Mm-hmm. Puis, en fait, la santé, ça reste au cœur des préoccupations aussi parce que même si tu es entrepreneur ou pas, que tu travailles à temps plein, que tu as une famille, que tu as plein de choses à côté, comment tu fais pour rentrer tout ça dans ton horaire? T'sais, c'est quand même...
Ben, c'est justement de ne pas tout rentrer dans ton horaire non plus. Il y a des choses que tu peux mettre dans ton horaire et des choses que tu ne mets pas dans ton horaire. Et puis, quand tu es entrepreneur, puis je parle aux entrepreneurs, mais tu sais, je parle, si vous n'avez pas d'entreprise, ça peut s'adapter à vous aussi, quand je parlais d'entrepreneuriat, mais on parle que, tu sais, c'est certain que ce qu'on fait à EFIC, si vous... Vous travaillez en tant que cuisinier dans un resto, probablement que ça ne s'adaptera pas nécessairement à ce que vous faites. Mais si vous avez...
Et encore là, ça dépend. Un cuisinier a un objectif de courir un marathon, il va falloir qu'il gère son horaire, puis son entraînement, puis d'autres choses à côté.
Exactement.
On peut avoir plein de projets en parallèle de notre job salarié, dans le fond.
Exactement. On peut parler du côté gestion de projet de cette façon-là. Je parle un petit peu...
Les projets, ça peut être dans n'importe quelle sphère.
Oui, non, c'est certain. Mais je parle vraiment au niveau global, la façon dont on approche la méthodologie de façon globale. C'est certain que on pousse beaucoup vers la responsabilisation, le self-leadership. Donc, le self-leadership, ce que c'est la gestion de soi. Okay? C'est la façon d'être le meilleur leader qu'on peut pour soi-même. Puis oui, c'est vrai qu'on est, peu importe que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un cuisinier dans une entreprise, mais dans un restaurant, mais que tu as des objectifs qui sont parallèles, admettons, comme tu as dit, courir un marathon, peu importe, mais il y a certains types de choses qu'il va falloir que tu mettes en action dans ta vie. Tu sais, que ce soit même au niveau où tu veux perdre 50 livres, ben c'est un petit peu la même affaire, la même façon dont il faut approcher la méthodologie. Donc, c'est de comprendre de un, te projeter. Tu sais, il y a quatre phases à la méthodologie. Donc, le un, c'est la première phase, c'est la projection. Projection, c'est comprendre où est-ce que tu vas. Est-ce que tu veux, par exemple, est-ce que tu veux courir un marathon? Est-ce que tu veux? En prendre, par exemple, tu veux faire, je ne sais pas moi, un triathlon, okay? Qui est encore plus complexe.
Encore plus de job.
Exactement. Fait que tu veux faire un triathlon. Fait que tu sais que ton objectif, tu te vois courir un triathlon, tu sais que tu veux courir un triathlon, puis tu peux avoir aussi un objectif de courir le triathlon en, je ne sais pas c'est quoi les benchmarks là, pour un triathlon, mais je ne suis clairement pas un triathlète, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu t'en vas? D'être capable de te projeter dans le futur par rapport à ça. Ensuite, c'est de comprendre que je sais où est mon objectif. Maintenant, comment est-ce que je priorise les choses à travers cet objectif-là? Donc, de ces objectifs-là. Et souvent, ça vient sous forme, un entrepreneur peut venir sous forme de projet. Peut-être qu'un triathlète, ça va venir sous forme de programme d'entraînement, puis il va devoir avoir un programme d'entraînement de course, de bicycle, puis de nage, si tu veux, pour devenir un bon triathlète. Okay? Puis ça, je pense que le triathlon est un bon exemple. C'est que vraiment? Nous, on travaille vraiment avec les buckets, dans le fond, qui est la gestion de charge de travail et de projet qu'on divise par unité de contenant. Ben, c'est un petit peu la même chose où tu vas devoir commencer à regarder où est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois prioriser. Et à partir de ce moment-là, c'est de savoir, tu sais, c'est bien d'avoir un bucket, admettons, je ne sais pas, course à pied, mais c'est de se dire qu'est-ce que ça prend maintenant pour faire. Donc, c'est d'avoir des objectifs ou des étapes clés qu'il va falloir que tu fasses et que tu sois capable de briser ces étapes clés-là, ces étapes en différents petits points actionnables. OK?
Et de c'est comme dire, un entonnoir. On commence large, puis là, plus on avance dans le processus, plus ça devient précis, puis des actions, alors qu'au début, c'était une vision.
Exactement.
Comme un breakdown en plusieurs étapes.
Exactement ça. Tu passes de ta vision et tu es capable de briser cette vision-là en certains petits morceaux actionnables que tu vas être capable de mettre dans ta vie quotidienne et justement aller de l'avant. Puis là, c'est que tu te rends compte que tu ne deviendras pas comme un triathlète parce que tu as couru au coin du chemin, au bout du chemin puis tu es revenu. Okay? Mais c'est le fait d'avoir couru, premièrement, couru au bout du chemin, revenu. Puis la deuxième journée, tu as peut-être couru jusqu'à l'autre chemin puis revenu. T'sais? Puis ensuite, c'est l'accumulation des choses qui fait que éventuellement tu as du succès parce que tu as compris ce que ça prenait. Donc, de un, ça te prend ta constance. Et de deux, ça te prend donc savoir où tu t'en vas. Ça te prend ton plan, ta priorisation donc de choses à faire. Mais de trois, ton planning. Okay? C'est important de planifier de la bonne façon. Donc, tu vas te dire, OK, ben moi, pour le faire, je sais que le lundi, le mercredi et le vendredi, à 6 heures du matin, je vais courir 45 minutes. Et puis là, bon, ben là, tu t'établis ton temps, des choses comme ça. Mais tu sais que il faut que tu ailles chercher. Tu sais que tu vas devoir céduler ton temps de nage. Puis la troisième chose, donc le planning est important, mais la quatrième chose, c'est aussi la protection. Ce que tu veux faire, c'est protéger ta structure. Tu ne veux pas nécessairement que comme ta structure d'entraînement, ben, elle soit partie, n'importe quel imprévu menace, si tu veux, cette structure-là. Donc, il va falloir que tu amènes, par exemple, de la récupération aussi. Ce qu'on appelle rest and recovery, dans le fond, c'est le repos, ça fait partie intégrante de ton
horaire.
De ta structure, de ton horaire, oui. Donc, tu protèges un petit peu ce que tu es en train de faire. Et puis, c'est d'amener ça dans un environnement, je te dirais, de cohésion qui va faire que tu vas être capable d'amener, dans le fond, tes rêves, ta vision à une réalité, mais concrète. Okay? Donc, c'est de passer des objectifs à des actions concrètes.
Donc, ça demande une certaine discipline. C'est là que d'avoir déjà fait du culturisme ou quelque chose qui te demandait vraiment d'être constant, de persévérer, ça aide sûrement. Mais tu sais, là où ça devient difficile, c'est quand ça commence à être la vraie vie, puis là, il y a plein d'imprévus, puis là, ben, on se dit, j'ai pas fait la moitié de ce que j'étais supposée aujourd'hui, puis là, qu'est-ce que je vais faire, puis là, c'est foutu, puis on commence à tourner en boucle dans notre tête en se disant que ça marche pas, notre affaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
C'est pas que ça ne marche pas, c'est la façon dont on va réagir qui marche pas. Donc, c'est la façon dont on va l'aborder. Le problème est que, tu sais, puis je parle souvent de life and business harmony, d'harmonie vie-travail, dans le fond, c'est que ce n'est pas une compétition entre les deux. C'est quelque chose qui va s'harmoniser où tu vas avoir vraiment comme besoin de cette harmonie-là entre les deux pour que ça fonctionne. Puis à un moment donné où ta vie va prendre un petit peu plus le dessus, comme dans une danse, dans le fond, ben, un petit peu, ta vie va la guider à un moment donné, puis d'autres fois, ça va être ton travail, puis c'est de savoir comme, qui fait quoi à quel moment. Ceci dit, il y aura toujours des imprévus, que ce soit dans ta vie ou dans tes affaires, ça arrive. Et je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est de toujours être dans une position d'évaluation de ce qui se passe. OK, pourquoi? Ah, ben, attends, tu dis, OK, ben, c'est arrivé. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à aller courir 3 fois cette semaine? Ben, là, tu dis, ah, ben, parce que ça t'est arrivé. Soit tu as 2 choix. Soit c'est tu es une victime de ce qui t'arrive, donc tu es une victime de l'environnement, si tu veux, réactif, ou c'est des excuses. OK? Donc, si c'est des excuses, là, il faut que tu travailles sur toi-même. Ce n'est pas nécessairement un problème de structure, c'est vraiment un travail interne qu'il va falloir faire. Mais si tu es en mode réactif, donc que tu passes ton temps à réagir à des choses qui arrivent dans ta vie ou dans tes affaires, ben peut-être que c'est au lieu d'être un problème, c'est de le voir comme une opportunité d'arranger les choses, puis d'implémenter peut-être des meilleurs systèmes ou des meilleures routines, des meilleures habitudes qui vont te faire une meilleure structure, qui vont faire que ça va être possible. C'est, fait que donc, des fois, ce n'est pas de se dire « Ah oh ben là, ça fait 2 semaines que ça ne marche pas, ça ne marchera plus jamais. » Non, ce n'est pas ça. C'est une question de constance aussi. Puis c'est de dire la constance, c'est comme, quand je fais ça, des fois, tu vas aller au gym, puis tu vas pas lever aussi pesant, tu ne vas pas réussir à faire le même nombre de répétitions que la semaine passée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut dire que contextuellement, il y a peut-être quelque chose qui veut dire que hey, « j'étais peut-être plus fatigué moi, cette semaine. » J'avais peut-être « Hey, j'avais mal au coude cette semaine parce que, tu sais, c'est un petit peu plus irrité. Qu'est-ce qui va se passer dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu dois faire pour te raméliorer? » Peut-être que ça va te prendre une journée de repos, ça va te prendre d'aller au physiothérapeute. Peut-être, il y a différents cas de figure. Tu comprends-tu?
C'est de comprendre. L'imprévu arriver puis trouver des solutions au lieu de dire c'est terminé trop tard.
C'est exactement ça, tu sais. Donc, même si tu es la personne, nature, puis c'est comme, bon, on en jasait juste avant qu'on enregistre, mais tu as beau être la personne, puis ça m'arrive à moi plus souvent qu'à mon tour, j'ai beau être la personne la plus proactive puis la plus organisée que tu vas avoir, il y a des semaines où, on va se le dire, c'est de la merde. C'est marrant, ça marche pas. Fait que, Ça arrive, tu sais. Il faut arrêter de se dire comme, de subir ça, c'est de dire, regarde, écoute, this is what it is, qu'est-ce que je peux faire? Puis dans le planificateur, on a sa section, la revue hebdomadaire de chaque semaine où on fait un petit peu
un bilan.
On passe en revue la semaine, dans le fond. Puis on voit, OK, ben, qu'est-ce qui a fonctionné? Comment je me suis senti? Puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aussi, tu sais? Comme, puis qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer la semaine prochaine? Donc, c'est tout le constat de ce qui se passe au lieu de dire, oh, c'est comme, OK, voici ce qui se passe, voici ce qu'on peut améliorer, on va travailler la semaine. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, tu vas être absolument, tu auras tous tes problèmes, seront partis, mais tu auras cheminé vers, si tu veux, une façon de faire. C'est un petit peu comme, je pense, tu sais, tu vas faire ton mouvement, un exercice, tu vas faire du bench press, admettons, puis tu vas faire ça, et puis il y a quelqu'un qui va dire, « Ouais, mais là, tu verrais, si tu mettais tes coudes là, un petit peu plus à 45 degrés, tu pourrais avoir une meilleure performance. » Là, tu dis, « OK, ben c'est ça, ben, je vais faire ça la semaine prochaine. » Puis là, tu vois,
hey,
tu as une petite correction, puis là, tu t'améliores. Puis toi, finalement, tu te rends compte que toi, quand tu mets, au lieu de mettre à 45, que pour toi, par rapport à ta biomécanique, tu les mets à, je sais pas moi, 50 degrés, tu as encore une meilleure, tu sais, push. Fine. Tu travailles avec ton contexte personnel, tu sais. Puis il faut toujours comprendre le contexte personnel aussi de chacun. C'est important.
Puis se donner un peu de temps aussi, parce que là, la manière dont la méthode fonctionne, c'est sur un trimestre, donc 90 jours. Tu sais, même s'il y a 7 jours qui vont moins bien, il y en a quand même d'autres en arrière. Là. Ça ne veut pas dire que ce qu'on avait fixé au début, on ne l'atteindra jamais. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, un peu moins. On ne sait jamais l'avenir, comment ça va vraiment se passer. Puis je pense que plus on avance dans la méthode, plus on commence à comprendre à quelle vitesse aussi on est capable d'interagir, puis d'adapter, parce que peut-être qu'il y en a qui atteignent plus d'objectifs que d'autres, peut-être qu'il y en a qui ont des objectifs plus gros que d'autres aussi qui vont prendre plus de temps, forcément. C'est tellement variable, c'est un vaste monde qui est toujours en évolution, en progression, en amélioration. C'est...
Ben regarde, Andréane, toi et moi, on peut avoir les mêmes objectifs. Disons que toi et moi, on va courir un marathon. Puis, on part beginner à un triathlon, puis on va partir débutant tous les deux. Puis toi, finalement, tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus doué que moi pour courir, puis pour nager, puis que moi, je dois... C'est pas mal plus laborieux. Ben guess what? C'est correct. Il faut travailler avec son contexte. T'sais. Je pourrais dire, oh, ben je suis pas Andréane. Non, je suis moi. Ben, peut-être que ça me prendra un petit peu plus de temps. T'sais. Moi, je l'ai fait. C'était une grosse leçon pour moi comme au niveau de... C'est de la gestion des attentes aussi. C'est que, tu sais, avant, quand je m'entraînais, puis avant que je compétitionne, tu sais, en culturisme, je ne le savais pas, quoi. Tu sais, comme, tu t'entraînes, puis tu penses que tu es bon, puis tu arrives, puis comme, tu arrives sur ton premier show, puis tu n'es pas aussi gros que tu le pensais, tu sais, par rapport aux autres gars, puis tu dis, ah, ben, je dois ajuster, puis tu dis, hey, mais moi, lui, moi, je suis 6 pieds 2, là, je compétitionne contre des gars de 5 pieds 8. Ben, on n'avait pas la même... On n'était pas fait pareil. Fait que moi, il fallait que je travaille avec mon contexte puis à travailler sur différentes choses. Puis ça ne m'a pas empêché de gagner, tu comprends-tu? Parce que j'ai travaillé avec ce que j'avais, j'ai adapté ça à mon contexte et puis ensuite, ben, j'ai passé du temps. Ben, peut-être que le gars qui s'entraîne, puis hey, il y en a, là, c'est Rémi, par exemple, mon best chum, lui. Tu sais, il est arrivé, on a commencé à s'entraîner en même temps. Lui, au bout de 3 mois, il avait déjà des bras énormes, tu comprends-tu? Mais lui, il a une génétique comme ça, puis pas moi. Mais tu sais, l'un dans l'autre, après, comme moi, j'ai dû travailler sur certaines choses ou différentes affaires. Mais pour lui, par exemple, il y a ça, mais il y a certaines body parts où moi, j'étais mieux que lui ou peu importe. T'sais. Mais c'est comprendre ces choses-là puis que ça ne se passe pas juste. Tu sais, tu disais, c'est juste 4 jours puis il y en a 90, mais c'est juste un trimestre puis il y en a 4 par année. Puis des années, ben il y en aura jusqu'à temps que tu meurs. Je veux dire, il faut comprendre que comme ce n'est pas une finalité, juste une couple de jours ou une couple de semaines. Il faut comprendre l'importance de la grande vision, ce qu'on appelle la big picture. C'est comme, comprends où tu t'en vas. Puis à partir du moment où tu gardes cette vision-là devant toi, là, tu vas comprendre, OK, c'est bon, j'ai dévié un petit peu, je peux le ramener, tu sais, je peux le ramener cette semaine ou la semaine prochaine. Puis, on the grand scheme of things, comme on dit, ça ne change pas. Ça ne fait pas de différence, tu sais, parce que tu arriveras pareil.
Mais est-ce qu'une science par rapport à 90 jours, tu sais, c'est souvent ce qu'on voit dans la fixation d'objectifs. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y en a qui ça se peut que ce soit plus long leur time frame idéal ou plus court? Est-ce que tu as déjà observé ça?
J'aime beaucoup travailler en méthode de 90 jours, parce que 90 jours, déjà, ça passe plus vite qu'on pense. Et c'est une bonne framework à travailler au niveau temporel. Donc, tu peux faire des objectifs annuels. Tu sais que tu as 4 trimestres, si tu veux, par année. Donc, c'est beaucoup plus facile d'ajuster au niveau, je te dirais, méso. Donc, tu sais, tu as le macro qui serait ton année, tu as le méso qui est ton trimestre, et puis tu as le micro qui serait peut-être ta semaine slash jour. Donc, tu peux plus facilement ajuster à partir de ce moment-là, mais ça te donne assez de temps quand même pour voir des résultats. C'est comme, par exemple, un programme d'entraînement, souvent, tu vas avoir des programmes d'entraînement souvent de 8 semaines, 12 semaines. Pourquoi? Parce que ça te donne assez de temps quand même de créer un élément de résultat qui va être intéressant, tu sais, de pouvoir évaluer quelque chose. Tu ne peux pas vraiment évaluer une couple de jours, tu sais. Il faut que tu te donnes assez de temps pour l'évaluer. Il y a aussi, quand tu commences avec la méthodologie, moi, je dis toujours, donnez-vous un minimum de 2 trimestres pour commencer à mieux comprendre la façon dont vous travaillez. Donc, il y a un élément, par exemple, de gestion de charge de travail qui, dans la méthodologie, qui vous aide justement à évaluer votre charge de travail et à mieux la planifier. Mais honnêtement, ce n'est pas parce que tu l'as planifié dès le départ que tu vas l'avoir 100% correct. Souvent, ce qui va se passer, c'est que ton premier trimestre, tu vas...
On en met un peu beaucoup, hein?
Exactement. Tu sais, on travaille, je te dis, en bucket, ben, tes buckets, là, c'était contenant, ils sont remplis à fond, alors que tu devrais peut-être pas les remplir à fond, tu sais. Et on attend, mais c'est normal, c'est une erreur qui doit se passer pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, OK, là, j'en ai un petit peu trop mis, le trimestre prochain, je vais ramener par rapport à ce que je sais, par rapport à le temps que j'ai disponible, mes capacités, mon contexte. Peut-être qu'il y a deux buckets au lieu de trois. Puis à partir de ce moment-là, tu commites. Tu dis, Yann, c'est les 90 jours, c'est ça qui se passe. Tu ne changes pas en cours de route. Tu commites. Et après ton 90 jours, tu fais l'évaluation et c'est là que tu vas. Tu sais, c'est comme je ça. La façon la plus rapide d'aller quelque part, c'est en ligne droite. Puis ça se peut que ce trimestre, tu fasses ça. C'est correct. Tu vas juste ramener. L'important, c'est qu'après ton trimestre, tu te ramènes. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, puis tu continues, tu vas arriver à un moment donné où tu vas être beaucoup trop loin du chemin que tu es supposé d'être dessus. Et c'est là que la fréquence d'alignement est super importante pour faire ce que tu fais. Tu sais, c'est quand tu fais un programme d'entraînement puis tu dis, Gand, je veux perdre, je veux gagner 10 livres de muscle cette année, puis tu te rends compte que, hey, là, j'ai perdu du muscle à cause de ce programme-là. Dire, OK, ben, qu'est-ce qui a été wrong? Tu sais, ben, peut-être que tu faisais trop. Tu sais, ça te prend peut-être moins de reps, moins d'intensité, plus de travail de. Tu sais, il y a différents. Plus de travail de force, il y a différentes choses, il y a différents facteurs. Fait que, c'est vraiment, encore une fois, de comprendre qu'il y a un élément de constance, puis un élément de patience aussi qui doit se faire. Dans la discipline. Dans le fond, pour avoir de la discipline, il faut de la conscience, de la constance puis de la patience.
Ouais. Mais dans le bilan hebdomadaire, ça, c'est vraiment une bonne chose qu'on soit comme incité à retourner voir nos guidelines annuels puis ce qu'on a mis aussi pour le trimestre. À chaque semaine, on réajuste un petit peu, en fait. Mm-hmm. Donc, ça, c'est bien. Puis, à un moment donné, quand tu fonctionnes par to-do list, là, que tu as juste une tonne de choses à faire, mais que tu n'as aucun ordre pour le faire, que tu n'as pas regroupé les tâches, c'est pas la méthode la plus efficace que j'ai essayé pendant des années. Puis là, je trouve qu'avec ça, tu sais, c'est comme plus motivant justement parce que tu sais où tu t'en vas, puis t'avances vraiment vers ça. T'as pas juste 10 000 affaires à faire que finalement, ben, ça te rapproche pas vraiment de ce que tu voulais atteindre finalement.
Ça, c'est puis toutes les tâches appréciable. Sont pas faites de façon... Toutes les tâches ne sont pas faites de façon égale. Tu vas avoir des tâches qui vont être beaucoup plus importantes que d'autres. T'sais, on parlait des projets, admettons, ben, si t'as une entreprise, ça, c'est un des gros problèmes pour les personnes qui ont des entreprises qui ils vont complètement comprendre ça. C'est que le problème souvent d'une entreprise, c'est qu'on va être très réactif à ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, on va réagir de façon... toutes nos tâches, au fond, deviennent urgentes, deviennent importantes. Et on oublie, dans le fond, dans le processus, c'est qu'on n'a plus le temps ou on oublie de faire les tâches qui sont vraiment importantes, qui sont des tâches liées à l'innovation, liées à la croissance de l'entreprise. Tu sais, des projets, puis dans la méthodologie EFIC, c'est une des quatre types de tâches avec lesquelles on travaille. Ce sont les projets, donc les roches, les rocks. Ce sont des tâches qui sont super importantes. Ce sont les choses qui vont faire avancer votre business, OK, d'une journée à l'autre. Donc, d'une journée à l'autre, mais faire croître votre business de façon constante. Donc, c'est important de toujours avoir des tâches chaque jour qui sont reliées, OK, à ce type de tâches-là. Si tu es dans un environnement réactif tout le temps, ça ne marchera juste pas, tu comprends-tu? Donc, c'est
mais
important.
Mais c'est d'avoir des priorités aussi.
Mais c'est ça, c'est de comprendre les priorités, mais aussi de savoir que on va avoir des tâches réactives de toute façon dans notre entreprise. C'est comment est-ce qu'on approche les tâches réactives. Si tu mets toutes les tâches dans une seule pile, puis tu piches au hasard basé sur ce que tu penses est important et urgent, ça ne marchera pas. OK? C'est faut avoir, être déjà proactif avec ta charge de travail que tu peux contrôler. Et de comprendre qu'il y aura un élément incontrôlable, de s'allouer la flexibilité de l'avoir, mais ne pas nécessairement subir la réactivité. Okay? Donc, par exemple, tu regardes les tâches secondaires, qui sont des tâches réactives, qui sont des tâches qui vont, dans le fond, que tu n'avais pas nécessairement planifié à l'avance, mais c'est de se limiter peut-être le nombre de tâches réactives que tu peux avoir. Parce que tu sais que si tu as un nombre illimité de tâches et tu travailles juste sur... Ta définition de la productivité, c'est le nombre de tâches chaque jour que tu checkes. Je peux te garantir que tu n'arriveras pas au résultat que tu veux. Donc, c'est important d'être très proactif sur ces choses-là, mais aussi d'être capable de s'allouer une flexibilité pour la réactivité, parce que tu ne peux jamais l'éliminer au complet dans une entreprise. C'est juste impossible. Tu comprends-tu? Mais c'est de ne pas se dire, c'est impossible, donc je vais oublier tout le reste. Mais non.
Oui, c'est facile d'oublier justement la sphère plus santé, prendre soin de soi, se garder du temps pour bouger, pour bien manger. Et comment on insère tout ça? Est-ce que justement, il faut que ce soit un de nos projets? Est-ce qu'il faut vraiment faire une priorité?
Il faut en faire une priorité. Donc, il y a deux types de tâches qui sont des priorités. Puis, on peut en parler, par exemple, au niveau business, mais que ça peut s'appliquer aussi au niveau personnel. Le deuxième type de tâches, on a parlé des roches qui sont vraiment les tâches qui sont reliées au projet. Les routines qui sont des tâches, dans une entreprise, ce seront des tâches qui sont, je te dirais, récurrentes dans une entreprise que tu n'as pas le choix nécessairement de performer pour le bien-être de ton entreprise, qui ne sont pas nécessairement réactives, mais que tu n'as pas le choix de faire parce que, justement, ça fait partie des opérations de ton entreprise. Okay? Je ne sais pas, par exemple, tu as un gym, admettons, faut que tu laves ton gym. Okay? Tu passes la mop. Il y a différentes choses que tu dois faire pour justement que ton gym reste ouvert. Parce que si tu ne le fais pas, ben guess what? Il n'y a personne qui sera là. Il faut que tu ailles huiler tes machines. C'est des routines. Mais au niveau de ta vie personnelle, il faut aussi que tu établisses un certain nombre de routines et de rituels dans ta vie pour justement atteindre des objectifs santé. Donc, ça peut être, admettons, une routine matinale, ça peut être peu importe. Mais
nous, vous avez donné plein de bonnes suggestions à ce sujet-là.
Mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Moi, quand je travaille, admettons, avec des entrepreneurs, et puis les entrepreneurs sont très, très bons à négliger leur bien-être et leur santé.
Malheureusement,
si tu veux, dans le processus de travailler pour leur entreprise. Il faut ramener souvent des choses de base en tant que routine. C'est par exemple, tu regardes dans le planificateur, on te donne une self-care, une routine de self-care, de bien-être quotidien, qui n'est pas nécessairement une routine du matin ou peu importe, mais qui est une routine à suivre sur le long de ta journée ou de choses à cocher que tu dois faire minimum. Donc, il y a l'hydratation. Hydratation, énorme problème récurrent pour tout le monde. Personne ne s'en rend compte. Beaucoup de problèmes de santé sont liés à la déshydratation. On n'est juste pas assez hydraté, point. Donc, c'est d'amener une routine qui va t'assurer que tu vas être capable de t'hydrater. Donc, le truc qu'on donne généralement, c'est le verre d'eau. Le matin, tu te réveilles, grand verre d'eau. Et ensuite, juste après avoir bu ton grand verre d'eau, tu te remplis une bouteille d'eau de 2 litres qui sera ton eau pour la journée. Puis tu peux même boire encore plus que ça. Boom, there you go. Et c'est plus qu'une 2 litres, ça? C'est une 4 litres?
Un gallon!
Un gallon, c'est ça, là, there you go. Ça, c'est ce que j'avais, c'est comique quand je compétitionnais en bodybuilding, puis du temps, dans les dernières semaines qui amenaient à la compétition, il y avait un moment où il fallait, tu faisais un water load, donc il fallait que tu te boives un montant d'eau absolument crazy. Oh. Je me promenais avec ma grosse jug, tu sais, le gros gallon d'eau, là, partout, là. Maintenant, je tiens mes bouteilles à 2 litres, là, mais j'aime ça que t'attends.
Ouais, gallon. C'est plus réalisable.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, mais dans le fond, c'est juste d'en faire, tu sais, juste pour illustrer, mais c'est de faire une routine avec ça. Le matin, tu te lèves, tu bois ton verre d'eau, tu remplis et tu y penses. Au bout d'un moment, tu vas y penser les premières semaines, tu n'y penseras plus par après parce que ce sera dans ta routine. Okay? Ouais. Ce sera devenu une habitude. La même chose avec la nutrition. La même chose avec tout ce qui est. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup donner, c'est la gratitude. Ça, c'est quelque chose au niveau de la santé mentale. Puis, tu sais, on parle beaucoup de santé puis de santé physique, mais la santé mentale, surtout dans le milieu de la performance puis de l'entrepreneuriat, ou même, tu sais, peu importe dans quel milieu vous êtes, le milieu du travail est un environnement de performance de plus en plus. C'est comment vous allez prendre soin de ce qui se passe entre vos deux oreilles. Puis, une des petites méthodes où je te dirais... méthode proactive, justement, de prendre soin de ce qui se passe dans tes deux oreilles, c'est la gratitude. Il y a différentes façons de le faire. Karine a le journal de vie, par exemple, qui est un journal de gratitude où tu dois lister tes gratitudes. Il y a différents exercices, mais il y a aussi elle fait aussi beaucoup les routines. Tu vois comment dans nos méthodologies, ça se relie, ça se touche. Mais c'est d'amener un élément qui est digeste, si tu veux, pour les gens. Fait que, par exemple, dans le planificateur, tu as la phrase de reconnexion qui est en haut à droite du planificateur tous les jours, qui te dit « Aujourd'hui, où tu dois remplir dans le fond, dans l'espace, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour… » blanc et je garde en tête que blanc. Ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est que chaque jour, ça te force dans ton cerveau d'être reconnaissant pour des choses que tu as. C'est super facile, surtout en tant que personne nord-américaine, nous autres, où on vit quand même très confortablement par rapport au reste du monde. On est un petit peu chouchouté et puis on oublie un petit peu des choses importantes qui sont dans la vie. T'sais. Souvent, comme Karine donne l'exemple à ses clients, c'est comme soit reconnaissant, par exemple, pour tes deux mains. Tu as deux mains. Si tu as deux mains, comme tu es ultra chanceux. Okay? Tout ce que tu ferais, comme tu n'avais plus de doigts ou plus de mains, je peux te garantir que ce serait pas mal plus difficile de certaines de ces affaires. Fait que si tu as deux mains, ben, sois reconnaissant pour ces choses-là. Moi, des fois, je suis comme, hey, je suis reconnaissant d'avoir de l'air. Puis dans l'air, il y a de l'oxygène qui fait marcher les poumons que je puisse respirer. Que ça, c'est, quand tu penses à ça, là, quand tu le ramènes à ce niveau-là, c'est comme, c'est mental, tu dis, mais c'est complètement... Là, ça rend tes petits problèmes, ton petit drame personnel complètement irrelevant, tu sais. Je suis reconnaissant d'avoir, il fait moins 20 ici au Nouveau-Brunswick aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir un système de chauffage dans ma maison, tu sais, parce que guess what, si je n'en avais pas, ce serait pas mal plus de temps. Non, mais tu sais, c'est des niaiseries, puis là, oui. Ben oui, c'est... Mais c'est ça. Puis ça se cultive, puis ça paraît stupide de même, mais à force de faire des répétitions comme ça tous les jours, je peux te garantir que ta santé mentale, ben, tu sais, puis surtout dans des temps comme ici où on a, ça va être, tu sais, c'est facile de, tu sais, de voir les choses du mauvais côté parce que c'est, tu sais, on est dans un, je te dirais, dans un temps de notre vie qui est peut-être plus difficile. Ben, guess what? La gratitude, puis ça fonctionne. Puis si vous êtes une personne anxieuse, par exemple, essayez-les. Je peux vous garantir que ça fonctionne pour l'anxiété. Pas les petits médicaments qui vont mettre un band-aid sur un pansement sur le bobo. Là.
Mm-hmm.
Ça, c'est le médicament ultime contre l'anxiété. C'est justement la gratitude.
Ouais. Ça ajoute un élément un petit peu plus énergie féminine aussi. T'sais, pas toujours être dans la performance, faire. T'sais, on peut alterner entre les deux. Ça va juste nous permettre d'arriver à notre but sans être épuisé non plus. Parce que si on pousse trop, qu'on se vide complètement, ça aussi, c'est un autre piège à éviter quand on essaie de s'organiser et qu'on tombe dans l'over-performance.
C'est mais encore une fois, c'est comment, comment est-ce qu'on définit la performance? Puis ça, c'est un des gros problèmes, un des problèmes de société comme, et un des problèmes de culture aussi, très propre à la culture entrepreneuriale et je te dirais même nord-américaine en général. C'est la culture de plus. C'est la culture de, justement, d'en donner plus au niveau de ta productivité. Quand tu regardes la productivité, la définition de la productivité, c'est si tu veux, ce qu'on appelle en anglais « output over input », c'est dans le fond, c'est ce qui sort comparativement à ce qui rentre. Okay? Fait que si tu es une machine, c'est tout ce que tu mets dans ta machine, ben, combien est-ce qu'il va en sortir à la fin? T'sais? Puis la mesure, c'est combien est-ce qu'il en sort? Fait que là, tu te dis, OK, ben, c'est le plus possible qui en sort. Ben, moi, c'est la machine, c'est le plus que je peux filer de la machine que je vais faire. Fait que là, si tu opères sur une optique de plus, puis tu le vois comme ça, est-ce que c'est réellement ça, la performance? Est-ce que c'est vraiment ça le plus? Ou c'est le fait de regarder ce qui sort de la machine, c'est vraiment ce que je veux qui sort de la machine. Pas plus, c'est ce que je veux qui sort de la machine.
Puis est-ce ce qui rentre dans la machine. Faire mieux au lieu de faire plus?
Faire mieux et de façon plus responsable et de façon plus durable. Donc, c'est la gestion des ressources ensuite que tu fais de rentrer dans la machine qui est intéressante. Puis, au niveau de l'échelle globale, on rentre vraiment plus dans une réalisation de ces choses-là. Tu sais, dans l'ère industrielle, c'était comme go, on s'en foutait combien de fuel qu'on pouvait faire, on s'en foutait comment on pouvait polluer l'atmosphère, c'était plus, produire. Maintenant, on se rend compte que y a un bout à ça. C'est
pas viable à long terme.
C'est pas viable à long terme. Exactement. Il n'y a pas d'élément de durabilité. Donc maintenant, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce que je peux produire ce que je dois produire tout en utilisant Puis c'est pas nécessairement juste moins. Je ne veux pas rentrer dans
mieux
le moins,
les
je veux
ressources.
Rentrer dans le mieux, dans le approprié. Qu'est-ce qui est le montant approprié de ressources que je peux mettre? Puis quand tu regardes en tant qu'être humain, qu'est-ce qui est les ressources qu'on a intrinsèquement? Notre temps, notre énergie, puis notre attention. En tant qu'entrepreneur, c'est des trois ressources qui sont périssables avec lesquels on doit dealer, tu sais, qu'on doit manager de la bonne façon. Fait que dans le fond, c'est d'évaluer ça. Qu'est-ce que je veux, tu sais, puis comment est-ce que je fais pour manager mon temps, mon énergie, mon attention de façon responsable et de façon durable, qui est super important.
Ça peut permettre aussi, si on est mieux organisé, si on est plus productif, pas forcément de faire plus de travail, mais d'avoir plus de temps pour tout le reste aussi.
Mm-hmm. Bien, ça dépend. Encore une fois, ça dépend ce que tu veux. Ça dépend de ta big picture. Mm. Ça dépend de ta vision à toi. T'sais, ma vision à moi peut être très différente de la tienne ou de quelqu'un d'autre. T'sais, pour moi, c'est je veux passer du temps avec mes enfants, je ne veux pas manquer de pratique de patinage de ma petite, admettons. T'sais. Fait que ça reste dans mes valeurs. Tu comprends de ce que je veux faire. Il y a d'autres personnes pour qui c'est d'autres choses. Puis je pense qu'on a tous un contexte qui est différent ou unique par rapport à ça et qu'il faut respecter et protéger. C'est aussi simple que ça.
Oui, mais là où je veux en venir, c'est qu'en s'organisant mieux, je pense que tout le monde peut tirer des bénéfices de ça, que ce soit par rapport à leur productivité au mm-hmm. travail, par rapport à atteindre des objectifs dans leur vie personnelle ou juste être moins réactif, avoir une charge mentale qui est un peu plus basse puis pouvoir se sentir mieux en général. Donc, j'espère que ça motivera certains à aller voir peut-être la méthode qu'on leur parle aujourd'hui ou à se procurer un petit ethic planner pour pouvoir tester par eux-mêmes. Parce que c'est vraiment ça, c'est de commencer à le faire puis de trouver notre méthode qui nous convient le mieux en ayant une structure qui est quand même éprouvée puis qui fonctionne pour plein de gens. Donc, pourquoi pas pour nous aussi?
C'est ça. Allez voir. En passant, les personnes qui écoutent le podcast peuvent utiliser le coupon AAG10. Allez sur planificateurefic.com. Donc, si vous êtes voulant le planificateur version française, la seule version qu'on a en ce moment, c'est l'édition Altitude qui est offerte à travers mon épouse Karine. Et puis, si vous utilisez le code AAG10 à la caisse, vous avez 10% de rabais. Parce qu'André est une partenaire, trusted partner.
Super. Hey, merci beaucoup, Dave. Ça a été super intéressant.
Ben, c'était toujours le fun. C'est toujours le fun de te parler, André. Merci.
Génial. Puis, une bonne journée à tout le monde.
Bye-bye.
Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laisser un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!